Alors, le thème des anges, on pourrait dire que dans la deuxième partie du XXe siècle, c'était pas au premier plan, on va dire ça. Maintenant, ça revient, mais d'une autre manière. Mais pour, à cause de la sécularisation, sans doute à cause du matérialisme, hein, les anges, c'est compliqué. Hein. Pas matériel, donc c'est compliqué. À cause du rationalisme, bon, je passe... On les retrouve maintenant avec les anges, mais quelquefois, quand vous cherchez un livre sur les anges, vous ne le trouvez pas dans la théologie catholique, vous le trouvez dans le rayon ésotérisme, ou voilà. Alors vous faites des expériences un peu particulières avec les esprits, vous communiquez avec eux, tout ça. Bon. Alors, c'est pas exactement... Voilà, ce n'est pas sous cet angle-là que je vais l'aborder. Vous êtes peut-être déçus, mais... Non, alors, justement, alors il y aura trois parties. La première, c'est le monde invisible tel qu'il nous est révélé. On pourrait dire ça, je vais prendre mon plan. Le monde invisible tel qu'il nous est révélé. C'est plus. On s'appuiera davantage sur la révélation dans cette première partie. La deuxième partie, ça sera plus une réflexion sur les anges, les bons et les mauvais anges, la mission des anges, notre ange gardien, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Donc ça sera la deuxième partie. Et puis la troisième partie, pour être un peu concret, alors comment entrer en relation avec les anges, si je puis dire comme ça. Alors il y a différentes manières, il y a des bonnes et des mauvaises. Donc, ben, voilà, on en parlera un petit peu. Ça sera la troisième partie. Ça va, c'est assez clair, le plan, pas trop compliqué. Alors, le premier point, c'est justement par rapport à la révélation. Parce que, comme ils sont invisibles, ils sont hors de notre expérience. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, la philosophie a réfléchi sur les anges. Hein. Alors, pas forcément avec le mot « ange », mais... les anges trouvent leur place dans la philosophie d'Aristote, ou voilà. Mais bon, globalement, il vaut mieux se tourner vers la Bible pour connaître quelque chose des anges. Alors peut-être que ça, c'est un préliminaire qui est important aussi dans notre foi catholique. Notre base, c'est la parole de Dieu. C'est pas nos réflexions, c'est pas ça la base. Pour faire simple, il y a deux itinéraires. C'est l'itinéraire de la philosophie. Alors, donc, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour faire de la philosophie. On essaie de réfléchir à partir de notre expérience et puis on essaie de voir comment pourrait être Dieu, etc. Bon, comment peuvent être les anges. Ça, c'est une voie qui est légitime et qui est bonne. Mais dans la voie du croyant, ce n'est pas d'abord celle-là. Même si le croyant il peut faire de la philosophie, encore une fois, et c'est bien qu'il en fasse aussi. Le croyant, il part de la parole de Dieu. La théologie, c'est la différence entre la philosophie et la théologie. La philosophie, on se creuse la tête et puis on essaie de comprendre quelque chose au monde tel qu'il est. La théologie... On se creuse la tête aussi, mais à partir de la parole de Dieu. Le point de départ de la théologie, c'est la parole de Dieu. Et on essaie de comprendre. Alors, ce n'est pas toujours très simple, enfin, pour vous peut-être, hein, voilà, le mouvement de la théologie, c'est se pencher sur la parole de Dieu et voir qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire. Parce que vous savez bien que la parole de Dieu, c'est... si vous prenez les textes sur les anges... Là, il y a beaucoup de choses hein, sur les anges. Alors, essayez de voir à travers ça de qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire, sachant que vous connaissez peut-être un des documents de Vatican II, c'est Dei Verbum, sur la parole de Dieu. Hein, c'est un des grands documents de Vatican II. Et dans ce document, il nous dit aussi que dans les livres de l'Ancien Testament, il y a des choses imparfaites et provisoires. Donc il ne faut pas absolutiser certaines choses qui sont dans la parole de Dieu. Et puis, non, et ça demande après une réflexion pour qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers ça. Donc ça, c'est important pour le mode de procédé, si vous voulez. Ça va ? Je ne vous saoule pas ? Je ne vous endors pas encore ? Bon, c'est bon. Alors, on y va. Donc, les anges dans l'Ancien Testament, d'abord. Alors, dans l'Ancien Testament, si vous allez voir, dans les premiers livres en particulier, on sait, quelquefois, on parle de l'ange du Seigneur. Mais qu'est-ce que cet ange du Seigneur ? Alors, au début, on ne sait pas très bien si c'est Dieu lui-même ou un ange distinct de Dieu. Alors, là aussi, hein, comme disait David Verboom, il y a des choses imparfaites, un peu, c'est la théologie qui est en construction aussi, c'est, du coup, ils essaient de comprendre, etc., à partir, et du coup, on ne sait pas toujours, je vais vous donner quelques citations, je ne vais pas en donner trop, parce que, il y a par exemple, Agar, vous vous rappelez, c'est une des femmes d'Abraham. Et puis Sarah la renvoie, donc elle part dans le désert, etc. Et alors l'ange du Seigneur vient trouver Agar dans le désert près d'une source. Mais en fait, c'est Dieu lui-même, parce que de lignes plus loin, Agar donna ce nom au Seigneur qui lui parlait. Agar donna ce nom, tu es El-Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Car elle se demandait, ai-je bien vu ici de dos celui qui me voit ? Donc, on parle de l'ange du Seigneur et puis à la fois on parle du Seigneur lui-même. Donc au début il y a un peu de flottement, vous le trouvez aussi à l'ange qui apparaît à Moïse et l'ange lui dit « Je suis le Dieu de ton père ». Ou avec l'épisode de Gédéon, alors ça c'est dans le, Agar c'était dans la Genèse au chapitre 16, Gédéon c'est dans le livre des Juges au chapitre 6. Alors, il y a un flottement, là encore. Est-ce que c'est l'ange ? Est-ce que c'est Dieu lui-même ? Bon. Hein, donc, l'ange du Seigneur, il y a un peu de flottement. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un premier point que je voulais évoquer. C'est, voilà, quand vous voyez écrit l'ange du Seigneur, c'est pas forcément un ange, ça peut être le Seigneur lui-même. Un deuxième point, nous, quand on réfléchit, on réfléchit à partir de notre expérience, de notre culture, etc. Donc, ben, les auteurs bibliques, c'est la même chose. Donc, quand ils ont réfléchi sur les anges, ils sont représentés les anges comme une cour autour de Dieu. Hein, c'est le souverain. Donc, Dieu, c'est un souverain oriental. Et alors, il a toute une cour autour de lui, et donc les anges, c'est la cour qui est autour de lui. Vous vous rappelez peut-être, par exemple, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, le livre de Job. Hein, donc, au début, voilà, c'est le jour du conseil des ministres, ou je ne sais pas, donc toute la cour vient autour du bon Dieu, et parmi la cour, à ce moment-là encore, c'est une étape de la théologie dans l'Ancien Testament, mais il y a Satan qui en fait partie de la cour de Dieu. Et alors c'est lui qui dit, non, non, mais c'est trop facile, il est heureux, tout ça, mais touche-le un peu. Et puis il perd tous ses enfants, tout ça, bon, voilà. Mais dans le livre de Job, on voit bien qu'il y a une cour autour de Dieu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment à la fois ils sont imprégnés par leur culture, et en même temps, ils s'en détachent, parce que c'est une manière de dire, bon, il y a une cour, mais il n'y en a qu'un qui est en haut, il n'y a que le souverain, et c'est Dieu qui est au-dessus de tous les anges. Hein, donc il n'y a pas un Dieu du mal et un Dieu du bien, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu bon et le Dieu d'amour. Mais après, en dessous de lui, si je puis dire, bon, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Alors, c'est là aussi que... Alors, il y a des tas de noms différents. Alors, je ne sais pas si vous distinguez bien entre les chérubins, les séraphins. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais peut-être que vous voudriez des détails sur tous les séraphins, les chérubins. Mais bon, ça m'arrange bien parce que je ne serais pas capable de vous donner. Bon. Alors, ça, c'est un deuxième élément de l'Ancien Testament, c'est de voir cette représentation aussi pour se représenter Dieu. Voilà, Dieu, c'est lui qui est le souverain de tout l'univers, et à son service, il y a les anges. Après, petit à petit, donc, troisième chose, j'en dirai que trois sur l'Ancien Testament, petit à petit, on distingue un peu les différentes tâches des anges. il se spécialise, si je puis dire. Au début, bon, il distingue pas tellement les bons et les mauvais anges, et puis petit à petit, voilà, on voit mieux la distinction, et puis après, donc, ça, on y reviendra, mais on voit que les anges veillent sur les hommes, ils présentent à Dieu leurs prières, ils expliquent aux prophètes le sens de leur vision, etc. Voilà. Donc on voit que petit à petit, on attribue des tâches particulières aux anges. Ils ont des missions particulières. Voilà, c'est un peu les trois choses que je voulais vous dire sur l'Ancien Testament. Après, dans le Nouveau Testament, ce qui est important, c'est de voir, ils sont très présents dans le Nouveau Testament, les anges aussi. Hein, donc, on les voit. Alors, voilà ce que dit. Vous trouvez des choses sur les anges, il y a deux pages à peu près, je crois, ou peut-être un peu plus, dans le catéchisme de l'Église catholique, vers les numéros 333. Enfin, vous regardez dans ce secteur-là et puis vous trouvez. Et donc, là, on voit. À la naissance de Jésus, ben vous voyez les anges à Noël. Vous voyez les anges au moment des tentations. Vous voyez les anges à Gethsémani. À la résurrection, c'est des anges qui viennent encore. Après, à l'ascension, les anges sont encore là. Les anges l'accompagneront dans son retour en gloire. En tout cas, on en parle souvent dans les évangiles et dans... Et Jésus en parle vraiment, pas comme des fictions, mais vraiment comme des êtres réels, actifs. Il veille sur les hommes, mais en même temps, il voit la face du Père. Je pense que je reprendrai cette citation un peu plus loin, à propos des anges gardiens. Mais, voilà. Oui, donc ils interviennent aussi au moment pour séparer les bons et les méchants, etc. On voit dans le Nouveau Testament, ils sont assez présents. Voilà. Le Nouveau Testament énumère les archanges, les chérubins, les trônes, seigneuries, principautés, puissances. C'est saint Paul dans les Colossiens en particulier, mais dans d'autres endroits aussi. Donc il y a une hiérarchie. Alors, je ne suis pas très calé sur cette hiérarchie, d'autant plus qu'elle varie un petit peu. Donc, c'est pas. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Mais de voir que ce n'est pas un monde uniforme, en tout cas le monde des anges, et qu'il y en a qui sont plus tournés vers Dieu, on pourrait dire, et dédiés. Il y a les ordres contemplatifs et les ordres actifs chez les anges aussi. Si je peux dire. Bon, mais voilà. Une chose qui est très importante dans le Nouveau Testament, c'est de voir que les anges sont subordonnés à Jésus. Vous le voyez notamment, on le voit dans l'Évangile, par exemple, c'est Jésus qui donne des ordres, hein. Ce sont les anges. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, hein, donc... On voit sa supériorité par rapport aux anges. Et on le voit aussi dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Alors là, l'auteur insistait pour dire que Jésus, qui avait pris chair, c'est vrai, il s'est fait vraiment homme, mais il n'est pas en dessous des anges pour autant. Alors, saint Bernard a donné des belles homélies sur les anges. Il commentait en particulier le psaume 90-91. C'est le psaume qu'on chante pour les complis du dimanche soir. Hein, il donne ordre à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, etc. C'est aussi un verset que cite le démon pour tenter Jésus. Hein, voilà ce que dit saint Bernard. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils montent pour eux, ils descendent pour nous. Ou plutôt, ils descendent avec nous. Ces bienheureux esprits montent par la contemplation de Dieu. Ils descendent pour avoir soin de nous et nous pour nous garder dans tous nos chemins. Ils montent vers Dieu pour jouir de sa présence. Ils descendent vers nous pour obéir à ses ordres. car il leur a commandé de prendre soin de nous. Voilà. Donc, les anges qui sont très présents dans le Nouveau Testament, les anges qui sont subordonnés à Jésus, et les anges qui sont très présents dès le début de la vie de l'Église. Si vous regardez notamment dans les Actes des Apôtres, ils sont présents aussi dans l'Apocalypse, hein, ils sont très présents dans l'Apocalypse, mais dans les Actes des Apôtres, par exemple, vous voyez que... je vais sauter un passage. Oui, vous voyez, par exemple, que c'est un ange qui délivre Pierre et Jean. Un peu plus loin, il délivre Saint-Pierre. Il facilite l'évangélisation. Quand Saint-Pierre doit aller chez Corneille, hein, il y a un ange qui fait l'intermédiaire pour faciliter l'évangélisation. C'est l'ange aussi qui s'adresse à Philippe pour lui dire « Tiens, tu devrais aller en plein midi. Et puis, il y a quelqu'un... » qui va être sur la route, et de fait c'est quelqu'un qui est en train de lire le prophète Isaïe. C'est l'ange aussi qui vient voir Saint Paul quand il déprime un peu dans sa prison, et du coup alors il y a un ange de Dieu qui vient le voir, qui vient le réconforter. Voilà. Alors en tout cas on voit que les anges sont bien présents au début de l'Église et aussi après. Et on verra aussi combien les anges sont présents dans la liturgie. Voilà. Alors, je vous dis ça un peu en bref, mais parce que... À moins que vous vouliez rester jusqu'à 6 heures du soir. Mais... Alors, après, donc, j'ai l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et... brièvement dans la tradition de magistère, hein, chez les pères de l'Église, ils parlent beaucoup des anges, et ça se retrouve aussi dans la liturgie, on le verra un peu plus loin. Saint Thomas d'Aquin a tout un traité sur les anges, hein, on l'appelle le docteur angélique. Hein, et dans le magistère, souvent le magistère s'est prononcé sur les anges. Dans le catéchisme, c'est des numéros 328 à 336, vous avez tout ce qu'il faut sur les anges. Donc, voilà. Et dans le credo, je crois en Dieu créateur du monde visible et invisible. Hein, donc les anges, ça fait partie de ce monde invisible en lequel on croit justement. Alors, dans la liturgie, les anges sont assez présents aussi. Hein, vous connaissez le dicton « lex orandi, lex credendi hein, », la loi de la prière et la loi de la foi. C'est pour ça que l'Église est très attentive aux textes liturgiques, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi dans la liturgie. Donc, c'est pour ça qu'elle veille avec un soin particulier. Alors, vous connaissez maintenant par cœur la nouvelle traduction du Missel, je pense. Bon. Mais du coup, ce qui est comme consacré, pour ainsi dire, dans la liturgie, ça montre que ça fait partie de la foi de l'Église aussi. Alors, on le voit dans la liturgie, alors là, c'est peut-être moins gai, mais il y a un hymne qu'on dit quand les gens décèdent, hein, que les anges te portent au paradis, etc. Après, dans le « Je confesse à Dieu », je ne sais plus si on parle des anges. Bon, je ne sais pas, je l'ai marqué là, mais dans le Gloria, Gloria, c'est le chant des anges à Noël. Ça, c'est clair. Dans la préface, alors c'est clair aussi, hein, dans la préface, on signe à tous les anges. Il y a dans la première prière eucharistique, on parle de l'ange qui vient porter la prière. Voilà. Alors, en tout cas, on le voit dans pas mal de textes de la liturgie. Donc ça, c'était la première partie, plus les fondements, on pourrait dire. Après, donc, quelques réflexions sur les anges. 5 réflexions. De voir les anges aussi comme un monde intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors ça... C'est certains philosophes le voient aussi comme ça, en disant, alors une certaine continuité, parce qu'il y a, il y a un saut de qualité, on pourrait dire, entre Dieu et ses anges, c'est pas la même chose, même si les anges sont invisibles comme Dieu, mais bon, ce ne sont que des créatures. Mais donc, d'avoir une certaine gradation, on pourrait dire. Alors, je vous cite, je ne sais plus de qui c'est, ça, mais... Dans le monde créé, depuis les particules élémentaires jusqu'à l'homme, on observe une continuité admirable qui nous conduit vers toujours plus de spiritualité, d'intériorisation à travers les minéraux, les végétaux et les animaux. Il serait très étonnant qu'entre l'homme et Dieu, il n'existe qu'un immense fossé plein de vide. Le plus probable est qu'il existe aussi de ce côté-là un étagement graduel de créatures conduisant de l'homme, le plus faible des esprits, jusqu'à Dieu. Donc, on peut supposer l'existence, alors on le suppose par la raison, mais on le sait par la foi, d'une série continue bien ordonnée d'êtres spirituels. C'est le pseudo-Denis, vous le connaissez par cœur, je pense, qui parle de la hiérarchie céleste. Voilà. Alors, là j'ai l'ordre. La tradition a fixé dans l'ordre croissant de perfection alors, les anges, ça c'est les plus petits, les archanges. Donc Gabriel, Michel, Gabriel, Raphaël. Les principautés, les puissances, les vertus, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins, là, ils sont tout près de Dieu. Voilà. Bon. Alors, c'est Bergson qui disait que les anges étaient le chaînon nécessaire entre Dieu et l'homme, sans lequel l'harmonie cosmique eût été discordante. Et Shakespeare... Il y a plus de choses entre le ciel et la terre que ton esprit n'en peut concevoir. Et d'ailleurs, vous vous rappelez du songe de Jacob, c'est dans la Genèse, chapitre 28. Donc, il y a une échelle et puis les anges qui font... Voilà, alors ça illustre un petit peu aussi toute la grandeur du monde angélique. Alors, voilà ce qui est dit dans la préface des anges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi. Et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Tout à l'heure, on a évoqué cette vue où il voyait les anges comme la cour autour de Dieu. Dieu, c'est le souverain et puis il y a une cour autour de lui. Et en fait, les anges, ça souligne aussi davantage la transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu. Alors, sous un angle assez différent, mais toujours dans ce paragraphe-là, où les anges sont c'est comme un monde intermédiaire, on pourrait dire, entre Dieu et l'homme, ou des créatures intermédiaires. Le pape François, dans son encyclique sur l'écologie, il répète souvent, il y a un petit refrain qui revient, « Tout est lié ». Et je crois que c'est vrai aussi qu'il y a une harmonie dans la création, mais les anges font partie de cette harmonie de la création où tout est lié. Ils font partie de l'environnement, les anges. On ne les voit pas, mais... Mais je pense que c'est à méditer, voilà. Nous, on a tendance, on vit dans un monde assez matérialiste, à voir que le matériel, mais il n'y a pas que le monde matériel qui existe. Voilà. Alors, dans ces réflexions, la première, c'était un peu les anges comme un monde intermédiaire, on pourrait dire, voilà. Une deuxième chose, c'est les bons et les mauvais anges. Bon, ce qui est clair, c'est que tous les anges ont été créés bons. Alors, ils sont une intelligence lumineuse. Les anges ne sont pas gourmands comme nous. Alors, ils ne sont pas dans le temps comme nous, les anges. Donc, alors, C'est ce qui explique que pour les anges, il ne peut pas y avoir d'erreur. Eux, ils voient tout de suite. C'est la lumière, vous allumez, toc. C'est clair, il n'y a pas de... Nous, bon, il nous faut du temps quelquefois pour comprendre, etc. Voilà. Mais pour les anges, ce n'est pas la même chose. Les anges, il y a quelque chose de... Et alors, on pourrait imaginer, mais puisqu'ils ne se trompent jamais, il ne devrait pas y avoir de mal. Mais justement, là, on voit que le péché, c'est pas l'erreur, le péché. C'est pas la même chose que l'erreur. L'erreur, on s'est trompé au niveau de notre intelligence, on a vu de travers. Tandis que le péché, c'est vouloir quelque chose, c'est au niveau de la volonté. Donc, alors, les anges, leur péché, c'est pas une erreur au niveau de l'intelligence, hein, c'est parce qu'ils voulaient pas. Et le péché, hélas, peut être froid et parfaitement lucide. Et alors nous, en un sens, on a de la chance. Parce que, comme on est imparfait, le bon Dieu dit, oui, mais il ne voyait pas jusqu'où c'était mal, tout ça. Allez, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. On peut avoir des circonstances atténuantes, en quelque sorte, parce que, bon, on est imparfait. Les anges, il n'y en a pas. Parce qu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils avaient une lumière totale. Donc, alors, c'est pour ça que l'ange, quand il se détermine, il dit, non, je ne veux pas servir Dieu, non serviam. Ben voilà, c'est pour toujours. C'est pas... Nous, on voudrait que la miséricorde, elle vaille aussi pour les anges. Mais non, parce que nous, c'est parce qu'on est misérable qu'on peut... Dieu, il veut nous sauver, donc il s'arrange pour nous trouver le maximum de circonstances atténuantes, mais ceci dit, l'enfer, il existe quand même, déjà parce qu'il y a des anges dedans, et puis qu'il y a peut-être des personnes, hélas, c'est Benoît XVI qui l'exprime en disant, ben voilà, certaines personnes, on peut penser, on n'en est jamais sûr, parce qu'on ne sait jamais, on peut canoniser des gens et être sûr qu'ils sont... au ciel, mais on ne peut jamais enferiser des gens, si je peux dire, en étant ceux qui sont en enfer. Ça, on ne peut pas le savoir. Seulement, on sait qu'il y a un enfer. Et certaines personnes, on a quand même plus de crainte qu'ils y soient que... voilà. Mais on n'en est jamais sûr. Hitler, je ne sais pas s'il est en enfer, au purgatoire pour un petit moment. Ou... Je ne sais pas. Après, il vaut mieux pas suivre son chemin, hein, qu'on va aller au ciel. Mais voilà. Et du coup, c'est le péché chimiquement pur, on pourrait dire. Voilà, il y a sans circonstances atténuantes. Et c'est le péché d'orgueil. Alors, il y a des. Je peux vous donner deux citations. Ézéchiel, si je ne me trompe pas, au chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Hein, c'est souvent ce qu'on dit de Lucifer qui était tellement beau. Hein, Lucifer, c'est lui qui porte la lumière. Que voilà. Ou c'est dans Isaïe au chapitre 14, verset 13. Tu as dit en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Voilà, c'est cet orgueil. Et je ne servirai pas. Ça, je crois que c'est dans Isaïe, chapitre 2, verset 20. Ou Jérémie, 2, 20. Et du coup, donc les anges, les bons et les mauvais anges, mais les mauvais anges qui ont fait ce choix, hein, c'est pas une erreur, c'est un choix de... Mais ils veulent entraîner les autres à leur suite. Du coup, c'est celui... Là, il y a des expressions dans la parole de Dieu qui dit bon, « homicide dès l'origine hein, », il veut tuer l'homme, ou le menteur, ou le... Enfin bon, il y a un certain nombre de... voilà. Le prince de ce monde, Satan, le tentateur, l'ennemi, l'accusateur, le serpent. Bon, je ne vous donne pas toutes les citations, mais il y en a, beaucoup. Et vous avez bien présent à l'esprit que c'est pas... encore une fois, il n'y a qu'un seul Dieu qui est bon. Après, c'est à l'étage du dessous, si je peux me permettre, que là, il y a des bons et des méchants. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu bon et un Dieu méchant. Ça, c'est le manichéisme. Mais nous, on n'est pas dans ça. C'est donc de fait. Et ça illustre la liberté qui nous est donnée, parce que Dieu ne veut pas nous forcer à l'aimer. On ne force pas quelqu'un à aimer. Voilà. J'arrête de parler des mauvais anges. Ça suffit. Je vais parler des bons anges maintenant. Alors, ça va un peu se répéter avec les anges gardiens, mais bon, vous saurez faire le tri. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première mission des anges, c'est de contempler Dieu. Alors, vous pouvez leur ressembler. C'est vraiment leur mission principale, leur travail principal, si je puis dire. Et les bons anges ont accepté et volontiers d'être au service aussi de l'homme. Parce que Dieu ils contemplent Dieu et puis ils viennent pour nous servir pour obéir à Dieu et pour nous servir. Donc voilà, ils sont heureux d'être à leur place. Alors ils présentent nos prières à Dieu. Par exemple, vous le voyez dans le livre de Tobie. Alors, Tobie, c'est beaucoup l'archange Raphaël, hein, qui conduit Tobie. Et puis, on voit les anges qui présentent d'un côté les prières de Tobie, le père, qui est désespéré, hein, qui est aveugle et tout ça. Et puis, à quelques centaines de kilomètres de là, les prières de Sarah qui est désespérée. Et toc, ça tombe en même temps. Alors, il y a un lien qui se fait. Et puis, donc, l'ange Raphaël est envoyé justement pour... enfin, vous connaissez le livre de Tobie qui est très beau. Mais voilà. On voit aussi les anges qui présentent nos prières à Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Si vous allez voir au chapitre 8, par exemple, entre autres. Quelque part, derrière tout ça, il y a le sens de la grandeur de Dieu. Bien sûr qu'on peut parler à Dieu et lui dire « Notre Père », c'est la prière que Jésus nous a enseignée, mais en même temps, vous connaissez les deux derniers dons de l'Esprit-Saint ? Oh ben, bien sûr. La crainte et la piété, hein, mais c'est une paire, ils vont ensemble. La crainte, c'est le sens de la grandeur de Dieu, donc on ne joue pas dans la même cour. Et la piété, c'est la proximité, le sens de la proximité de Dieu, de sa bonté. Je n'ai pas à avoir peur de lui. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Mais il faut toujours les deux en même temps. Hein. Dans une relation, souvent, il y a des... Voilà. Et du coup, pour les anges, ça, voilà, ils nous inspirent la crainte de Dieu, dans le bon sens du mot, le sens de la grandeur de Dieu. Alors ça, c'est une des fonctions des anges qu'on retrouve souvent dans la Bible, de présenter nos prières à Dieu. Une autre mission qui, d'ailleurs, c'est leur nom, c'est d'être les messagers. En angelos, en grec, je ne suis pas très doué, mais c'est messager. Donc, parce qu'ils... et on le voit bien hein, dans l'Évangile, c'est ceux qui apportent la nouvelle au berger, voilà, allez voir. ou à Pâques. Donc, ils ont souvent un message à transmettre de la part de Dieu. Quelquefois, on les voit expliquer aux prophètes leur vision. Alors, ça vous arrive peut-être qu'un ange vous explique. Non, je ne sais pas. Ou aide à interpréter la parole de Dieu. Puis une autre mission qui revient souvent quand on parle des anges, dans la parole de Dieu, c'est de veiller sur nous et de nous protéger du mal. Alors bon, on le voit par exemple avec Saint Pierre. Un jour, c'est au chapitre 12 des Actes des Apôtres, il est enfermé dans sa prison, il dort, voilà, et il y a un ange qui le secoue. Allez, lève-toi. Oui, voici que survint l'ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce que fit Pierre, l'ange ajouta, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors lui, il pense être encore dans ses rêves, mais en fait, après, d'un seul coup, il se retrouve dehors, en dehors de la prison, etc. Mais voilà, c'est... Donc, l'ange qui veille sur nous, qui nous protège du mal. C'est le pape François qui disait que le métier des anges, c'est de défendre l'homme. Et puis, une autre mission qu'on voit aussi beaucoup dans la parole de Dieu pour les anges, c'est d'intervenir de manière puissante, notamment à la fin des temps. Alors, il y a le fameux combat de l'archange Michel hein, contre au chapitre 12 de l'Apocalypse, où il rejette le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on appelle Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté à terre. Voilà, donc les anges présents au terme de notre vie et au terme du monde, de l'histoire du monde. Ça, c'est quatre missions qu'on revoit souvent chez les anges. Ça va, je vous ai pas emmené. Maintenant, je vous parle un peu de l'ange gardien. Ça va? Vous suivez toujours? Dans la prière, donc les Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, c'est le 29 septembre, et les anges gardiens, le 2 octobre. Et alors, dans la prière que le prêtre dit pour la mémoire des anges gardiens, voilà ce qu'il demande. Les croyants demandent à Dieu de leur assurer le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. La protection et leur compagnie. Ça fait partie de notre foi, hein, d'avoir un ange gardien. Alors, encore une fois, ils sont invisibles, nos anges gardiens, mais ça fait partie de la foi de l'Église, le numéro 336 du catéchisme de l'Église catholique. Voilà, je vous le lis. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Un des fondements de cette foi dans les anges, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Alors, vous pouvez retenir le verset, c'est Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Alors, pour la fête des anges gardiens, la première lecture, elle est tirée de l'Exode. Je vous cite juste un verset. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Mon ange marchera devant toi. Et Benoît XVI a une belle expression pour parler des anges. Il dit qu'il est l'ange gardien et le ministre de la sollicitude divine pour chacune et chacun, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Ça va? Alors, trois aspects plus spécifiques des anges. C'est une compagnie de savoir qu'on a quelqu'un qui nous est proche, qui nous accompagne. Il y a beaucoup de saints, j'en parlerai un petit peu plus loin, et beaucoup de saints ont fait l'expérience presque sensible de la présence de leur ange gardien. Donc la compagnie, avoir quelqu'un de sympathique à côté de soi. Le guide, eux, ils savent déjà le ciel, ils savent comment ça se passe au ciel, donc ils sont en mesure de... comme le guide de montagne, il faut qu'ils aient déjà fait le trajet avant, sinon... Donc, eux, ils connaissent ce point d'arrivée, et du coup, ils peuvent nous inspirer. Alors, comment ils nous inspirent, ça, c'est... Quelquefois, on peut l'attribuer à notre raison, mais... on peut tout rationaliser, hein, si on veut. Mais en même temps, on peut se dire, tiens, pourquoi j'ai eu cette inspiration à ce moment-là? Ça, les anges, souvent, ils travaillent auprès de nous de manière assez discrète. Hein, vous ne savez pas exactement, mais de fait, c'est ce que les théologiens appellent la communication ordinaire. Vous le saurez tout, hein. Ordinaire, tout simplement. Parce qu'après, il y a des communications qui sont plus extraordinaires, mais nous, on se contente. Pas sauf peut-être tel ou tel d'entre vous, mais bon. Et donc, une compagnie, un guide et puis un défenseur. Donc, ils viennent nous défendre du mal qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, de nous défendre quand on est tenté, etc. Donc, mais, et puis le mal qui vient de l'extérieur. Alors, c'est... le premier but, c'est qu'on arrive au ciel. Hein. Mais en même temps, il peut nous aider dans notre vie très concrète. Le Père Lamy raconte quand notre fondateur avait une certaine relation avec les anges. Et alors... à un moment, il y a eu l'incendie de la maison familiale, et après, il est allé rechercher des choses qui étaient une statue de la Sainte Vierge qu'il avait peinte. Bon, c'était pas une réussite, mais bon. mais il aimait bien cette statue. Et puis, il y va, et puis il y a une cheminée qui était restée, qui tombe juste à côté de lui. Alors ça, c'est le genre de choses. Ben, j'ai eu de la chance. Et puis après, c'est Marie, quand elle lui a fait relire sa vie, qui a montré les moments où elle a été intervenue ou par le bien d'un ange, où à un moment, il faisait des cabrioles dans le poirier. Et puis, en fait, il ne se rendait pas compte, il se retirait pas mal, finalement. Mais on ne mesure pas forcément toujours l'intervention de l'ange, qui peut être assez discrète, mais efficace, même quand on ne se casse pas le cou. Voilà. Vous savez que vous êtes des œuvres d'art, hein, on met des gardiens. Alors, vous n'êtes pas des œuvres d'art inertes comme dans les musées, mais dans les musées, pour les œuvres d'art, on met des gardiens. Hein. Et bon, l'ange gardien, justement, il est là aussi pour veiller sur vous, parce que Dieu compte, enfin, vous comptez aux yeux de Dieu. Sinon, il ne vous donnerait pas des gardes du corps si vous n'étiez pas des gens importants. Et je trouve ça une anecdote. Un jour, il y a un ministre, je dirais pas son nom, un ministre qui va rendre visite à l'arche à Trolley. Et donc, ils avaient donné à une personne handicapée un bouquet de fleurs à donner au ministre. Mais quand il arrive, la personne est allée donner le bouquet de fleurs à son garde du corps. Mais il avait quand même plus belle prestance. Alors, quelquefois, on pourrait peut-être faire ça, donner à notre ange plutôt qu'à nous. Notre ange a plus belle prestance que nous. Voilà. Alors, ça, c'était pour les anges gardiens. Hein. Trois choses, la compagnie, le guide... Et le défenseur, le gardien. Et après, les trois archanges. On parlera des noms des anges après. Il n'y en a que trois dont on connaît le nom. Michel, Gabriel, Raphaël. Alors, Michel, Gabriel, Raphaël, ils ont « L » tous les deux. Le « L », c'est Dieu en hébreu. Hein. C'est, ça dit quelque chose de leur proximité de Dieu. C'est, voilà ce que disait Benoît XVI, une très belle homélie sur les archanges. Alors, il s'adresse à des évêques. Alors, il fait toujours le parallèle. « Soyez les anges pour le troupeau que Dieu vous a confié. » Donc, Mais c'était le 29 septembre 2007. Alors, je vous lis ce que disait Benoît XVI, entre autres. « L'ange est une créature qui se trouve devant Dieu, orientée de tout son être vers Dieu. Les trois noms des archanges finissent par le mot « elle » qui signifie « Dieu ». Dieu est inscrit dans leur nom, dans leur nature. Leur véritable nature est l'existence en vue de lui et pour lui. » Donc, vous connaissez la signification de Michel, c'est « qui est comme Dieu ». Et du coup, c'est Michel défend en quelque sorte la sainteté de Dieu contre la présomption du dragon. C'est encore Benoît XVI qui cite. Il a deux missions en quelque sorte, Michel, c'est aussi de combattre tout ce qui s'oppose à Dieu et en même temps de protéger le peuple de Dieu. Donc c'est vraiment les missions principales de Michel. Gabriel, c'est le messager par excellence. Alors vous le trouvez notamment dans le chapitre 1er de Saint-Luc, avec l'annonce d'abord à Zacharie et puis après à Marie. C'est le Père l'ami, on dit une prière tous les, qui est le messager de la miséricorde de Dieu. Ah oui, d'ailleurs, un flash publicitaire. N'hésitez pas à acheter les paroles et prières du mois de novembre, c'est avec des textes du Père l'ami, notre fondateur. Donc, il est arrivé dans les bonnes librairies, donc n'hésitez pas. Voilà. Mais donc, et il y a cette prière dans ces paroles et prières, il y a cette prière. Donc, lui, il annonce, c'est le messager de l'incarnation de Dieu. Puis Saint Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Alors, on le voit surtout dans le livre de Tobie. Alors, on voit comment il conduit, ça se lit très facilement le livre de Tobie. On voit comment... très intéressant comment il conduit Tobie fils, hein, il y a Tobie IE et Tobie avec le T, mais comment il conduit le fils à travers différentes péripéties. Il utilise d'ailleurs ces péripéties, hein, l'histoire du poisson, pour finalement faire fuir les démons. Et puis, donc Raphaël, il guérit, comme dit le Benoît XVI toujours, la communion perturbé entre l'homme et la femme. Hein. Vous savez que Sarah, elle s'est mariée 7 fois, et puis la première nuit, son mari, toc, à chaque fois, il mourait. Donc, après les autres, ils hésitaient quand même un peu. Et puis, Raphaël aussi a guéri les yeux aveugles du père de Tobie. Voilà. Et Raphaël qui peut nous guérir de notre cécité aussi spirituelle. Voilà, alors j'arrive à la troisième partie. Pour notre relation avec les anges. Ça va, la troisième grande partie, autour de la révélation, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, j'ai parlé un peu du magistère, un peu de la liturgie, etc. Et puis après... Une deuxième partie, c'était plus des réflexions autour des anges. Alors, il y avait les anges comme monde intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre les bons et les mauvais anges, la mission des bons anges, l'ange gardien et les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Ça vous va? Et maintenant, on arrive à la troisième partie, notre relation avec les anges. Alors, je ne vous invite pas à faire tourner les tables, mais justement... de voir aussi quelle disposition intérieure à cultiver pour vivre une vraie relation avec les anges. Je crois que la première disposition, c'est la foi, de croire qu'ils existent. Ils sont invisibles, alors c'est, si on n'y croit pas, c'est compliqué autrement, mais de croire qu'ils existent, qu'ils sont présents et qu'ils agissent. Du coup, c'est, oui, cette foi est, qui entraîne une forme de respect aussi vis-à-vis des anges, et de penser à eux, tout simplement. Parce qu'on dit loin des yeux, loin du cœur, mais comme on ne les voit pas, quelquefois, ils peuvent être un peu loin du cœur aussi. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a besoin de foi. Si on veut vraiment vivre avec les anges, il faut vivre de la foi. Deuxième chose, je pense, si on veut vraiment vivre avec les anges, c'est aussi avoir un sens plus grand de la grandeur de Dieu. Il y a des gens peut-être qui disent « Oh, moi je peux m'adresser directement à Dieu, je n'ai pas besoin de m'encombrer des anges et tout ça, je ne le vois pas en plus. » Ben non, non, les anges ne sont pas superflus si Dieu nous les a donnés. Et peut-être pour cultiver justement ce sens de la grandeur de Dieu et de ne pas être trop désinvolte à l'égard de Dieu qui est le Tout-Puissant, le Très-Haut. Et puis une troisième attitude, je pense, c'est une forme d'humilité et de docilité. Je crois que c'est justement l'évangile qui est pour les anges gardiens, fait référence à l'enfance spirituelle. Vous vous rappelez peut-être d'un certain monsieur qui échappait à la présence de ses anges gardiens, entre guillemets, pour aller voir sa belle. Il allait sur son scooter. Mais nous, analogiquement, on peut faire quelquefois un peu la même chose. On veut se passer de nos saints anges. Et lui. Mais non, Dieu nous les a donnés justement pour qu'on ne fasse pas de bêtises. Et le Père Lamy nous disait, mais on est quelquefois un peu inconscient, on ne se rend pas compte que dans la lutte contre le mal, on s'imagine qu'on peut y arriver, mais alors il disait... Oui, face à Satan, nous sommes comme des nourrissons devant un homme dans la force de l'âge. Un nourrisson devant un homme dans la force de l'âge. Et bien nous, devant les esprits mauvais, on est un peu comme ça. Alors du coup, ça vaut la peine d'avoir son garde du corps, son ange gardien. Donc, mais ça suppose de prendre conscience de notre petitesse et que devant le mal, on n'est pas forcément des héros invincibles. Alors ça, c'est une des dispositions intérieures. Après, ben, il faut faire appel à eux. Le Père Lamy dit « Nous ne donnons pas aux anges l'importance qu'ils ont. Nous ne les prions pas assez. Les anges sont très touchés quand nous les prions. Il y a une grande utilité à prier les anges. On les laisse tranquilles, on ne les dérange pas assez. » Voilà, enfin, il revient souvent là-dessus. Alors, ça, je ne vais pas les lire, mais vous les trouverez sur le site. Il y a des prières à l'ange gardien, des prières à Saint-Michel, des prières aux trois archanges. Voilà. Alors, il y en a une à l'ange gardien que j'aime assez bien. Où est-elle ? Voilà. Mon bon ange gardien qui voit sans cesse la face de notre Père qui est dans les cieux. À toi, Dieu m'a confié dès le début de mon existence. De tout cœur, je te remercie de ton aimante protection. Je t'en prie, protège-moi contre ma propre faiblesse et contre les assauts des esprits mauvais. Illumine mon esprit et mon cœur pour connaître et accomplir toujours la volonté de Dieu et conduis-moi à l'union avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'aime bien cette prière. Il y a beaucoup de saints qui ont eu une relation particulière avec les anges. Je vous les cite juste. Saint Thomas d'Aquin, Sainte Françoise Romaine. Ah oui, Sainte Françoise Romaine, c'est au XVe siècle. Elle vivait dans la familiarité de son ange gardien. Mais un jour, elle médite quelqu'un. Et son ange lui envoie une claque si violente que l'assistance en entend le bruit et en constate la marque sur sa joue. Ah, vous allez prier votre ange gardien, hein. Le curé d'Ars en parlait volontiers. Sainte Catherine Labouré, hein, vous savez que c'est son ange gardien qui l'a conduit. Voilà. Cardinal Newman, qui appelait son ange gardien son plus vieil ami. Voilà. Sainte Faustine, vous connaissez Sainte Faustine. Alors, elle dialoguait avec lui constamment, comme ce jour, lors d'un voyage en train. Elle le voit à côté d'elle en train de prier et de contempler Dieu. Rien d'extraordinaire. Elle raconte qu'il lui apparaît souvent, même dans les circonstances les plus ordinaires, jusqu'à la cuisine et le jardin. Voilà. Padre Pio, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de saints qui ont vécu en proche de l'ange gardien. Il y a des lieux aussi qui sont... Mont-Saint-Michel, c'est pour un archange. Hein, il y a différents lieux consacrés à Saint-Michel. Vous connaissez Rome, bien sûr, vous avez visité Rome. Alors, en haut, il y a le Vatican, et puis à côté, il y a le château Saint-Ange. Ange, hein, c'est l'archange Michel en haut qui est représenté. Hein, voilà, parce qu'il a arrêté une épidémie de peste au Moyen-Âge. Et le pape François a consacré le Vatican à Saint-Michel quand l'année de son élection. Il y a aussi à Notre-Dame-du-Lot, pour ceux qui connaissent, hein, dans les Hautes-Alpes, Benoît Trancurel a vu les anges plus de 600 fois. Donc, voilà, elle était assez familière avec les anges. Il lui prodigue des conseils, par exemple, être patiente. Enfin, ça, c'est pas pour vous, certainement, mais... être patiente et ne pas se fâcher en recevant les pèlerins. Voilà. Et bien, aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Fatima. Et il y a l'ange, là, Fatima aussi, hein, l'ange de la paix. Donc, voilà. Deux dernières questions avant de conclure. Est-ce qu'on peut donner un nom à son ange gardien ? Non. Non. Alors, vous pouvez regarder le numéro 217 du directoire sur la piété populaire et la liturgie. Voilà ce qui est écrit. Il faut réprouver l'usage de donner aux anges des noms particuliers que la Sainte Écriture ignore, hormis de ceux de Michel, Gabriel et Raphaël. Alors, pourquoi on ne peut pas donner de nom aux anges ? Parce que donner un nom, c'est aussi... quelque part avoir une autorité sur la personne. Et du coup, l'Église, pour garder aussi ce... Alors, on peut demander, bien sûr, de l'aide à notre ange, mais ce n'est pas notre boniche non plus, notre ange. De garder... Voilà. Alors, l'Église, non. Elle dit non. Une autre question particulière, c'est peut-on voir son ange gardien ? Alors, il y en a peut-être qui l'ont vu parmi vous. Mais... Alors, ça peut arriver. Mais bon, c'est d'abord des êtres spirituels et incorporels, donc invisibles. Mais ils peuvent apparaître. Bon, on le voit dans l'Évangile, hein, Zacharie qui voit l'ange, Marie, elle voit l'ange. Donc, ça arrive. Hein, là, quand je vois Benoît Trancurel, elle voyait son ange, voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Donc, voilà. Mais... Conclusion. Alors, j'ai pensé à trois points hein, par hasard. Peut-être, en méditant, c'est un peu bref, mais sur les anges... de voir que la réalité est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande que ce qu'on voit de nos yeux de chair. Les anges nous éveillent à une autre dimension de la réalité. Je crois qu'on serait heureux au ciel de voir plein de choses. C'est beaucoup plus riche. On n'a qu'une dimension, mais il y a une autre dimension invisible, mais bien réelle. Une deuxième chose, c'est peut-être d'avoir la joie de savoir que il y a des êtres sympathiques qui veillent sur nous, On n'est pas tout seul. Quelquefois, ça peut nous faire du bien. Voilà, un chrétien n'est jamais vraiment seul, dans le sens où voilà, Dieu a, comme on disait Benoît XVI, les ministres de la sollicitude de Dieu. Voilà, on a des êtres bienveillants. À l'inverse, il y en a quelquefois qui font du spiritisme, après ils ont du mal à dormir, ils ne savent pas s'il y a quelqu'un qui va leur sauter dessus pour les étrangler ou quelque chose. Mais non, nous c'est le contraire. On sait qu'on a un ange gardien et qu'au contraire, on a une présence bienveillante à nos côtés. Je pense que ça peut nous faire du bien, à certains moments. Et puis, de les prier de manière renouvelée, hein, comme le disait le Père Lamy, on les laisse trop tranquilles, non, il faut qu'ils travaillent. Et ça leur permettrait d'intervenir davantage dans notre vie et dans le monde, ce qui n'est pas inutile. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, après, c'est le bon Dieu qui... En tout cas, il ne faut pas hésiter à s'adresser au bon Dieu. Le bon Dieu peut nous faire passer des réponses, soit de diverses manières. Hein. Ça peut être votre voisine, votre mari, ou je ne sais pas, quelqu'un. Dieu, après... Voilà, il peut nous faire donner la réponse de multiples manières, et entre autres par les anges. Mais peut-être par une expérience spirituelle particulière, où c'est lui directement, quelque part, qui vous donne la réponse. Mais après, c'est la liberté du bon Dieu.
Moi, je vais juste une question par rapport à Saint-Michel. Vous avez dit que c'est votre mission qu'on va tous se poser à Dieu.
Et il protège le peuple de Dieu. Il protège le peuple de Dieu. Bon, on le voit beaucoup dans l'Apocalypse. Si vous relisez le chapitre 12 de l'Apocalypse, et voilà, on voit que... Donc, ils ont des missions différentes. C'est intéressant de voir aussi que les anges, voilà, ont des... missions différentes, comme vous avez des missions différentes. Vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Quelle est votre mission ?
Est-ce qu'on peut prier les anges de ce problème ?
Pardon ?
Est-ce qu'on peut prier les anges
de ce problème ? Oui, vous pouvez prier les anges des autres. Alors certains aussi, quand ils vont avoir un rendez-vous, qu'ils se promettent d'être... mais il prie, oh, mais je vais prier son ange, peut-être qu'il est avec mon ange là qui s'arrange entre eux pour que ça se passe bien. Oui, pardon, oui. Ben, n'hésitez pas. Parce que les anges, une des manières d'agir très. C'est de nous donner des inspirations. Voilà. Ils peuvent intervenir de diverses manières, mais quelquefois, il y a des inspirations. Alors, ça peut nous venir directement du Saint-Esprit, ou voilà. Mais en tout cas, oui, des inspirations.
D'après ce que vous avez dit, on va avoir accès à notre intériorité.
Pardon ?
On va avoir accès à notre intériorité.
Oui. Mais c'est vrai que oui, si on demande, c'est bien de remercier aussi. Alors, dans la liturgie, habituellement, on ne remercie pas directement les anges, mais on s'associe à eux pour remercier Dieu pour tout le bien qui nous fait. Hein, dans la préface et le Sanctus. Mais oui, on peut bien sûr les remercier, bien sûr.
Est-ce que c'est une erreur de demander à un saint d'intercéder pour nous plutôt qu'à notre ange?
Oh non, non, ils ne sont pas jaloux. Après, non, non, non. Après, oui, ils s'arrangent entre eux. Hein. Non, il faut pas se faire des nœuds dans le cerveau. Hein. Non, non, oui. Donc n'hésitez pas ce qui vous vient à l'esprit. Mais ce qui est important, c'est de donner à la fois une place à votre saint patron, à votre sainte patronne, aux saints que vous aimez, et puis à la fois une place aux anges. Ils ont une place différente. Et voilà, que chacun puisse faire son travail. Ah bah oui, oui, oui. Une fois qu'on s'y est, on communique. Ah oui, non. Nous, on a des problèmes de communication ici, mais là, oui, non. Ça marche bien. Ils parlent la même langue qui est la langue de l'amour, et là, ça marche bien là-bas. Chez nous, c'est un peu plus compliqué quelquefois. Sauf en communauté où tout est parfait, bien sûr. Non. Bien entendu.